Alarm phone, hello.
Hola.
Salam alaikum.
Allô, bonjour.
Alarm phone, Mike.
C'est Alarm phone.
How are you, my friend?
Como estás, amigo?
How many are you on
can you hear me?
Est-ce que vous m'entendez?
Okay, can you...
Benny, do you
can you give me your GPS position?
Chronique amère.
Chronique à
chronique
à
mère.
Chronique amère.
Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarm phone. Freedom, I don't
meet him. Where's your freedom? Combien de personnes êtes-vous sur le bateau?
Can you hear me?
What kind of boat are you on?
Me puedes dar
how
position?
Many are you on the boat?
Keep calm, keep as calm as you can.
Okay, I call you back.
ما هو لون القارب?
Maybe try calling again, because right now I can't hear anything.
La Méditerranée est devenue un cimetière.
Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée.
Parce que la mer Méditerranée est une frontière.
Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme.
Parce que le racisme et le colonialisme tuent.
Parce qu'en 2024, 12 500 personnes sont mortes ou disparues en traversant.
1041 personnes par mois.
240 personnes par semaine.
34 personnes par jour.
Plusieurs milliers de personnes sont emprisonnées.
Et bien bien plus dont on ne sait rien.
Rien qu'une fois, faire les vagues et tout casser rien qu'une fois.
Parce que des histoires existent derrière les chiffres.
Parce que ces histoires doivent être racontées.
Parce qu'on veut continuer à lutter.
Parce qu'on ne veut pas oublier.
Parce qu'on ne veut pas s'habituer.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Salut, c'est Fulma. Cette année, j'étais censée demander le visa pour l'Espagne. Depuis le mois de février, je marchais pour avoir un rendez-vous dans une agence. Le système qui gérait le rendez-vous pour l'Espagne, BLS, était bloqué pour le mois de février et mars. Il a été ouvert en avril. Il y a eu des rendez-vous disponibles. J'étais là-bas pendant plusieurs heures et j'avais l'argent sur moi et ils n'ont jamais voulu m'aider à avoir un rendez-vous. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, j'ai la lettre d'invitation d'une association en Espagne là-bas, mais j'ai toujours pas le rendez-vous. Ça fait que c'est quasiment impossible d'aller faire la demande de visa parce qu'il faut obligatoirement avoir un rendez-vous. Si ça continue comme ça, on est presque arrivé à la date de la réunion. Donc, je pourrais malheureusement pas partir.
Do you have travel insurance?
Men have that.
Do you have property?
No, miss.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 37e épisode de Chronique amère, une émission mensuelle où l'on décortique les politiques de frontières européennes depuis le réseau Alarm Phone. Les membres de notre réseau vivent aussi bien au sud qu'au nord de la Méditerranée. Alors, quand nous voulons nous voir et nous parler autrement qu'à travers nos téléphones, nous devons nous déplacer. Et bien évidemment, nous nous confrontons encore une fois au système des frontières. Pour une partie du réseau, ceux et celles qui sont au nord, avec un passeport européen correspondant à leur genre, la plupart du temps, ça va. C'est une question de disponibilité et d'un peu d'argent. On décide parfois au dernier moment si on va de l'autre côté de la Méditerranée. Par contre, pour celles et ceux qui sont au sud, c'est une autre paire de manches.
On a entendu un message de notre camarade Fulma, qui vit au Maroc et qui a dû faire face à l'épreuve de la demande de visa pour notre meeting de printemps. Elle obtiendra finalement son visa 2 semaines après la réunion.
Il faut commencer près d'un an à l'avance à faire une demande de visa. Une procédure complexe et humiliante qui est le premier verrou à la liberté de circulation. Le plus évident, mais celui dont on parle peut-être le moins. Comme si cette sombre procédure administrative était moins importante que les murs, les drones, les gardes-côtes et autres entraves du régime des frontières. Moins meurtrière, certainement. Pourtant, c'est bien la clé de voûte de ce système.
Alors, on a voulu donner à comprendre ce que c'est que cette procédure, ce qu'elle coûte aux personnes qui doivent la suivre et ce que ça rapporte aux États. Parce que, comme d'habitude, contrôle et profit font bon ménage. Nous aurions voulu aussi raconter comment ces procédures nous impactent dans notre fonctionnement. Comment certaines camarades doivent faire face avec le fait qu'elles sont les seules de leur groupe à pouvoir voyager. Comment les visas reproduisent cette discrimination dans les groupes où les plus précaires seront toujours obligés d'intervenir en visio? Ce que ça fait de devoir se plier aux exigences des ambassades, de recevoir un refus. Ce qu'il en coûte humainement. Ce sera sans faute l'occasion d'une prochaine émission.
reserve a flight? Have you ever been here before?
History of visas and the current visa regime. It can't be separated from the development of the nation state.
L'histoire des visas et le régime actuel en matière de visas sont indissociables du développement du système des États-nations et par conséquent des passeports et des contrôles aux frontières.
The visa regime starts to develop in the 1970s, which was kind of in response to this movement.
Le régime des visas a commencé à se développer dans les années 70 en réponse à ce mouvement de migration des populations du Sud vers le Nord qui, une fois arrivées, ne pouvaient être envoyées dans leur pays d'origine en vertu de la Convention sur les réfugiés et les lois internationales que ces États du Nord avaient eux-mêmes rédigées.
Le visa régime means that you can't just get on a plane and go. You have to ask for the visa, so you have to essentially ask for permission to come to.
Le régime des visas signifie que vous ne pouvez pas simplement prendre l'avion et partir. Vous devez demander un visa, donc vous devez essentiellement demander la permission de venir en Europe ou aux États-Unis. Cela signifie que, dans une situation théorique, avant l'instauration des visas, une personne victime de persécution quelque part dans le sud de la planète pouvait, en théorie, prendre l'avion, voler vers un endroit en Europe, disons l'Espagne, et une fois là-bas, demander l'asile. Que sa demande d'asile soit acceptée ou non, et qu'il obtienne l'asile, l'Espagne, dans ces circonstances, ne peut pas renvoyer quelqu'un en raison de la clause de non-refoulement de la Convention sur les réfugiés. Elle ne peut pas renvoyer quelqu'un dans un endroit où il risque d'être persécuté. Donc oui, dans ce contexte, les visas constituent en quelque sorte une première barrière et l'un des premiers outils qui externalise les frontières de l'Europe. Puis on commence à voir se développer cette situation du chat et de la souris, où les gens trouvent de nouveaux moyens de traverser la frontière, et puis les États développent de nouvelles techniques pour empêcher les gens de traverser la frontière. Et puis les gens trouvent de nouveaux moyens, etc. Une façon de visualiser la dynamique réactive et cyclique entre le contrôle des migrations et l'action des personnes, leur capacité, leur autonomie lorsqu'elles migrent.
And so it's from this where we start to see the development of securitization and externalization policies becoming, well, further developing to the point where.
C'est à partir de là que nous commençons à voir se développer les politiques de sécurisation et d'externalisation. Elles se sont tellement développées qu'aujourd'hui nous voyons des situations où il y a des drones, des avions de surveillance et où l'externalisation s'est en quelque sorte imposée. Ce n'est pas seulement dans les États de la côte méditerranéenne, mais aussi dans les États d'Afrique au-delà du Sahara, où les agents de Frontex sont présents et où les politiques sont modifiées, en quelque sorte avec l'encouragement actif et parfois le financement de l'Union européenne, dans le but de limiter la capacité des personnes à se déplacer vers le nord.
Abat le système des visas.
Un texte d'Alam Fon Dakar Bozafi.
Aujourd'hui, nous vous écrivons pour dénoncer le durcissement des visas en Afrique, plus particulièrement au Sénégal. Les politiques de visa restrictives et les procédures de demande de visa, de plus en plus complexes et coûteuses, sont un obstacle majeur. Une gymnastique sans fin pour les Africains qui souhaitent voyager, étudier, travailler ou rejoindre leur famille à l'étranger. Ces politiques ont des conséquences dévastatrices pour les individus, les familles et les communautés qui n'hésitent même pas à trouver autre moyen, la mer ou le désert, pour rejoindre l'Europe. Elles limitent les opportunités économiques, restreignent l'accès à l'éducation et à la formation et entravent la mobilité sociale. Elles créent également des inégalités et des injustices. Car ceux ou celles qui ont les moyens de payer les frais de visa et de satisfaire aux exigences complexes pour voyager, tandis que les autres sont laissés en quai. Le durcissement des visas en Afrique est également un symbole de la méfiance et de la suspicion envers les Africains. Il est temps de reconnaître que les Africains ont le droit de se déplacer librement et de choisir leur lieu de résidence, comme mentionné dans la Constitution sénégalaise. Il est donc temps de mettre en place des politiques de visa qui soient justes, équitables et respectueuses des droits de l'homme.
Nous exigeons
que les gouvernements et les institutions internationales prennent des mesures pour assouplir les politiques de visa et pour faciliter la mobilité des Africains et Africaines. Nous exigeons que les frais de visa soient réduits ou remboursés en cas de refus de visa, que les procédures de demande de visa soient simplifiées et que les délais de traitement soient accélérés. Nous nous solidifions avec les Africaines et Africains qui sont affectés par ces politiques et qui luttent pour leurs droits. Nous nous solidifions également avec les organisations qui travaillent pour défendre les droits des migrantes et migrants et des réfugiés. La liberté de circulation est un droit fondamental qui devrait être accessible à toutes et à tous, sans distinction de genre, d'orientation sexuelle ou d'identité de genre. Pourtant, les personnes LGBTQ+ sont souvent confrontées à des obstacles et des dangers lorsqu'elles se déplacent, que ce soit à l'intérieur de leur pays ou à l'étranger. Les lois et les politiques discriminatoires et les persécutions et les violences homophobes et transphobes, les restrictions de voyage et les interdictions de séjour, tout cela contribue à créer un environnement hostile pour les personnes LGBTQ+. Cela les force souvent à vivre dans la peur, à cacher leurs identités ou à renoncer à leurs droits fondamentaux.
Visas today seem like, well, fundamentally they've become normalized.
Aujourd'hui, les visas semblent être quelque chose de très normalisé, c'est très accepté. Il y a des accords de visa entre des pays d'Afrique, entre plein de pays à travers le monde. Et souvent, on pense que c'est l'aspect le moins violent des frontières, parce qu'il y a, bon, il y a des aspects plus violents, les flics, les drones, les murs, les régulations, etc. Je pense que comprendre l'histoire des visas signifie que nous les considérons bien sûr non pas comme un point de départ, mais comme l'un des outils clés qui constitue le premier moment d'externalisation de la frontière au sens littéral. Ou le moment où quelqu'un arrive et où un policier lui dit « Hey, tu ne peux pas passer ce point sans les bons documents ». Avant, ce point, c'était à l'atterrissage de l'avion ou à l'arrivée du bateau en Europe. Et maintenant, c'est avant de monter dans l'avion. Et je pense qu'on peut vraiment considérer une sorte de point de départ à partir duquel tout le développement du régime des frontières, la sécurisation et la répression des personnes et de leur capacité à migrer, l'externalisation des frontières et les impacts que cela a sur les migrants, mais aussi sur les États et les personnes qui ne migrent pas en Afrique, par exemple. Oui, je pense que les visas jouent un rôle important dans ce domaine. Ils sont vraiment un élément clé du régime des frontières.
Il
est important d'être conscient que cet aspect des visas et la façon dont ils peuvent être également être un outil utile dans la poche des gens pour faciliter leur migration, ce qui nous rappelle l'importance de soutenir les personnes dans leur demande de visa. Mais je pense que des mesures concrètes comme la réduction du prix des visas, les demandes de visa ou le remboursement des personnes qui ont fait une demande et qui ont été refusées sont des choses auxquelles les gens peuvent participer dans le cadre de cette lutte.
If we're in Europe, it might be our embassy which is scamming people out of money.
Et surtout, si nous sommes en Europe, c'est peut-être notre ambassade qui escroque les gens. Donc je pense que c'est un point très clair sur lequel nous pouvons agir et nous pouvons agir en solidarité avec les personnes qui luttent contre ce régime de visa, d'une manière assez concrète, et aussi en reconnaissant la responsabilité et bien des Européens. Je suis Européen, c'est donc mon gouvernement qui fait ça. C'est mon gouvernement qui escroque les gens en leur soutirant de l'argent pour leur demande de visa.
Schengen, 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 Scheng
باغي نبدل عينا مبدل يا جاري غير ترجل شي فيزا شنغل عيشة معاد وصعيبة عرفت ما غنجيبها فرح يما الحبيبة شي فيزا شنغل باغي نطير باغي نبدل عينا مبدل يا جاري غير ترجل شي فيزا شنغل عيشة معاد وصعيبة عرفت ما غنجيبها فرح يما الحبيبة لا مالا بيدا مي توكو امي دي تانتوس بروبلماس نو بودو دورمير el tiempo pasa el tiempo nunca va a volver perdóname madre de aquí me quiero ir así somos los de calle no hace falta dar detalle ganamos la vida como sea ya sabes depende de la marea a sacar la mercancía la policía detrás mía lo que quieren es joderme en prisión meterme شوفنا معاهم ظلمات عشنا معاهم حروبات هنا ما عطتنيش طوماج سنين من عمري صوماج صوماج وبيطالي حاجة ما تحلالي صبر ما بغالي بغيت نغير حالي
Il y a un problème, un réel problème, si on arrive à parler de business, de demande de visa. Non seulement les frais de visa sont énormes, il y a des démarches à suivre, il y a les achats des rendez-vous et malheureusement, on nous rejette les visas. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre.
Imaginez payer l'équivalent de votre salaire mensuel pour demander un visa qui vous est ensuite refusé. Eh bien, en 2023, c'est ce qui est arrivé à certains des 704 000 demandeurs africains qui devaient voyager pour l'Europe, mais à qui le visa Schengen a été refusé. Cela représente plus de 56 millions d'euros non remboursables qui ont quitté les poches africaines pour remplir les caisses des pays européens. Non seulement les ressortissants africains sont des demandeurs les plus rejetés, mais ils vont devoir également payer plus. Car depuis juin 2024, les frais du visa court séjour ont augmenté de 12%.
Le consulat ne fait que accepter ou refuser un dossier. Mais le traitement du dossier en lui-même aujourd'hui est confié à des entreprises privées. Ces entreprises privées, elles-mêmes prennent des frais.
Et donc, en plus de la hausse des frais de visa, l'UE a proposé de faire passer les frais de ses prestataires de 40 à 45 euros.
Les entreprises privées, par contre, elles font ce qu'elles veulent. Par exemple, ça leur permet de proposer des services premium. Vous voulez être prévenu par SMS de l'avancée de votre dossier, vous allez payer. Vous voulez qu'on vous renvoie votre passeport par coursier ou par poste, vous allez payer très très cher d'ailleurs.
On rencontre d'énormes problèmes sur les demandes de visa. En premier lieu, comment avoir les rendez-vous, c'est trop difficile, il va falloir sortir beaucoup d'argent pour avoir les rendez-vous. Nous qui sommes sur les sites pour en chercher, d'habitude on nous freine, on bloque nos adresses IP pour ne plus avoir accès aux rendez-vous. Du coup, on est obligé de faire recours à d'autres moyens, comme par exemple d'aller acheter les rendez-vous pour pouvoir mieux faire nos dossiers ou bien pouvoir introduire un dossier à l'ambassade. Parce que là, comme l'ambassade de France, là on vous dit... Si vous ne pouvez pas avoir un rendez-vous, vous pouvez faire la collecte à domicile. La collecte à domicile, c'est de s'inscrire sur le site. Comme ça, il y a des agents qui vont se déplacer, venir chez vous et prendre votre document, votre dossier. Maintenant, ils peuvent faire les empreintes là-bas et tout. J'ai eu un dossier à monter avec la collecte à domicile. Après avoir payé les frais de visa, 205 000, j'ai reçu dans ma boîte mail une facture de 59 000 francs. Ce qui est normal, ce qui est les frais de visa Schengen. Du coup, moi, je pose la question où se trouve le reste de l'argent. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont prêts à donner leur vie pour voyager. Donc, même si on leur demande des millions, ils vont le donner.
L'Afrique est globalement le continent qui affiche le taux de refus le plus important et les chiffres le prouvent. Elle totalise 27% de refus contre 15% pour l'Amérique du Nord et du Sud, 13% pour l'Asie, 7% pour l'Europe et 3% pour l'Océanie.
Il y a des familles qui sont en France, qui ont leur maman ou leurs parents ici au Sénégal, qui veulent parfois aller les voir. On les rejette les visas, même s'ils ont voyagé beaucoup de fois. Les étudiants aussi, on les rejette tout le temps maintenant. quelques autorités, comme par exemple les hôpitaux et tout, ceux qui doivent aller dans des congrès, voilà, on les rejette les visas, même si les dossiers sont complets. Avant l'ambassade, il y a le centre qui vérifie les demandes. Si cette demande n'est pas complète ou on sait vraiment que cette demande va être rejetée, pourquoi les avoir fait passer à l'ambassade? Je me dis des fois qu'il y a des dossiers qui ne vont même pas à l'ambassade. Si tu as un rejet, la deuxième fois tu ramènes ton dossier, ils mangent ton argent. Ça ne passe pas à l'ambassade, ça reste au centre. Et on a pris chacun 115 000. Tu achètes une assurance, attestation de billets, réservation d'hôtel et tout. Payer celui qui doit monter ton dossier, ses honoraires et tout. Regarde ce que ça fait. Combien ça peut faire sortir.
Malgré tout cela, ce business florissant n'est pas prêt de s'arrêter. Puisqu'en 2024, 11,7 millions de demandes de visa Schengen ont été déposées, soit une hausse de 13% sur un an. Le taux de refus mondial s'est établi à 14,6%, soit environ une demande sur 7 rejetée. Derrière cette moyenne se cachent des disparités spectaculaires. L'Algérie affiche un taux de refus de 35%, le plus élevé parmi les principaux pays demandeurs, contre seulement 4,6% pour la Chine. Ces écarts traduisent donc une inégalité géographique frappante, puisqu'un demandeur africain présente un risque de refus environ 8 fois supérieur à celui d'un demandeur asiatique. Sur la base d'un coût moyen estimé à 185 euros par dossier rejeté, les refus représenteraient environ 316 millions d'euros de pertes en 2024, entièrement supportés par les demandeurs. 316 millions d'euros en plus dans les caisses des ambassades des pays européens. Un véritable vol.
On peut l'appeler une association de malfaiteurs, si le mot n'est pas de trop. Ah oui, c'est nous, la jeunesse africaine ou la jeunesse sénégalaise, qui donne le budget de fonctionnement de ces ambassades-là.
Prenons le cas du ministère des Affaires étrangères français. Les demandeurs ont permis, par exemple, au Quai d'Orsay, d'augmenter ses recettes, l'activité visa étant la seule qui en rapporte à ce ministère, tout en lui permettant de réduire ses effectifs dans les consulats en Centrafrique, au Congo-Brazzaville, au Sénégal, etc. Quant à savoir pourquoi l'argent perçu n'est pas à rembourser en cas de refus, le Quai d'Orsay invoque le code Schengen.
Le remboursement n'est pas prévu par la réglementation européenne et les frais sont fixés par le code communautaire des visas pour les visas de court séjour.
Une manne financière donc, un business florissant pour l'UE, mais très coûteux pour les Africains. 90 euros, c'est environ 60 000 francs CFA, soit le salaire moyen d'un agent de sécurité au Sénégal ou en République démocratique du Congo.
De nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer cette politique de demande de visa de l'Union européenne totalement injuste. C'est le cas de nos camarades de Bouzafi à Dakar, avec le texte « Abat la politique des visas ». C'est aussi le cas de l'ambassadrice du Maroc en France, qui plaide pour une révision urgente du système de délivrance des visas et une plus grande transparence du processus décisionnel. C'est encore le cas du président zambien Hakainde Hichilema, qui lui demande le remboursement des demandes rejetées. D'autres voix vont jusqu'à demander la réciprocité.
Pourquoi il y a un Allemand, un Belge, il vient au Maroc sans son visa, alors qu'un Marocain, un cadre, un médecin, un professeur, des hommes d'affaires, ils se voient refuser le visa.
Et si les pays africains imposaient la réciprocité?
Bon, je pense que ce serait que justice de dire « Je suis sénégalais, on me demande de payer 100 euros avec les frais de dossier pour venir en France. Le Français qui souhaite venir au Sénégal, ce sera la même chose. » Ça me paraîtrait une manière de rééquilibrer.
Il faut nous faire sortir ces centres de demande de visa au Sénégal ou bien essayer de les améliorer, essayer de leur dire, de leur faire part des problèmes des Sénégalais, de l'arnaque qui se trouve dans ces centres-là et qui fait vraiment mal et qui fait que les morts des migrants, ça se multiplie par le désespoir des centres de demande de visa. Tu donnes beaucoup d'argent là-bas, on te rejette, tu repars, on te rejette. Tu es jeune, ambitieux, tu veux tout coûte voyager. Des 400 000 et 500 000 que tu donnes à l'ambassade et on te rejette, tu vois une pirogue, tu prends ça et malheureusement, la plupart, ils chavirent dans la mer. Il faut essayer d'éradiquer là les problèmes qui sont dans les centres de demande de visa qui nous font trop mal, trop mal.
Can you reserve a flight? Have you ever been here before? Who will attend listen to you on this trip. Can you provide a bank statement? Why do you want to come here? Why do you want to leave where you're from? Why have you chosen this time period? How long do you plan to stay?
Il est temps de reconnaître que la liberté de circulation est un droit essentiel pour les personnes LGBTQ+. Tout comme pour les autres, il est temps de mettre en place des politiques qui protègent et facilitent la circulation des personnes plutôt que de la restreindre. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus juste et plus solidaire. Un monde où les Africains peuvent se déplacer librement et vivre avec dignité. Un monde où les droits de l'homme sont respectés et où la compassion et la solidarité sont les valeurs qui guident nos actions.
Alors, je vous demande de rejoindre la lutte pour l'assouplissement des politiques de visa en Afrique, de défendre les droits des Africains à se déplacer librement, de créer un monde plus juste et plus solidaire. Ensemble, nous pouvons faire la différence.
Chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. Nous reparlerons de la question des visas dans un second épisode qui sera diffusé dans les prochains mois. En attendant, nous avons, comme à notre habitude, envie de terminer cet épisode par des pensées de solidarité. Des pensées de solidarité pour tous nos camarades d'Alarm Fun qui ne peuvent toujours pas se rendre dans les meetings en Europe à cause de cette politique de visa. Des pensées de solidarité pour toutes celles et ceux qui ont vu leur demande de visa rejetée ces dernières années. Des pensées de solidarité pour toutes les familles ruinées à force de demander des visas pour que leurs enfants et leurs proches puissent voyager. Des pensées de solidarité pour ceux et celles qui finissent par prendre la mer, désespérés par toutes ces demandes rejetées. Des pensées de solidarité pour toutes celles et ceux qui ont célébré le 6 février dernier les disparus aux frontières et les victimes des violences d'État. Ni oubli ni pardon, le combat continue. Sans oublier, des grosses pensées de solidarité pour nos trois amis trans assassinés par les talibans le 20 janvier dernier à Kaboul. Des pensées également pour les 40 autres personnes queer qui ont été arrêtées, torturées par la police des mœurs du régime taliban. Enfin, des pensées de solidarité pour le collectif Entraide Queer Afghanistan qui apporte du soutien financier et matériel pour aider ces personnes à fuir la répression des talibans. Merci à Fulma, DJ, Maguette pour leurs précieux témoignages. Merci à Bouzafi et à Alarm Fun Dakar d'avoir écrit ce texte si percutant « Abat la politique des visas ». Merci à Annick pour son éclairage sur l'historique de la politique des visas. Merci à Agiplus pour leur reportage « Visa Schengen, le business du refus » et à Michael Poron, auteur du livre « Visa pour la France, le business des frontières fermées ». Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de Jet FM, celui de Canal Sud et celui de Radio Duo. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarm Fun et les traversées des frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez aussi consulter le site Watch the Med ou celui d'Alarm Fun. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique Amère. Et d'ici là, main sur le cœur et point levé.